On est au bord de la BR364. Maintenant, là, les gros camions qui passent à toute vitesse le long de cette route. Il est 6h30 du soir, donc la nuit est tombée. Et on s'est arrêté parce que voilà. Alors, c'est pas un grand incendie. C'est juste le bruit de l'Amazonie qui brûle. Inexorablement, le feu qui avance et qui progresse. Oula, je recule parce que ça redouble d'intensité. Le pire, c'est qu'on voit que quand il y a des gros camions qui passent, le passage, le déplacement d'air ne fait qu'attiser les flammes. Et voilà, et là, je vois les flammes qui montent plus haut et qui font monter au ciel plein d'étincelles qui vont étendre le feu un peu plus loin. Voilà, c'est le bruit dans cette partie ouest de l'Amazonie. Le bruit de l'incendie.
Grillé, brûlé par le soleil et la sécheresse.
We're fucked.
Après.
Journal de bord d'un monde qui fond.
The whole place is burning.
Épisode 6. Brésil, le Paris des sourouis. Quand les Amérindiens replantent contre l'agrobusiness.
D'un monde à l'autre.
Vivant-il sur France Inter.
Avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Bonjour à toutes et à tous. Suite de notre voyage dans l'Amazonie brésilienne, entre deux communautés amérindiennes qui, chacune à sa façon, tentent de repousser la déforestation. Pourquoi je vous fais encore écouter ce bruit-là ? D'abord parce que j'ai à moitié cramé mon micro pour l'enregistrer, après des heures de route. Mais surtout parce que ce son est fascinant. Presque aussi fascinant que de regarder un feu, au point de faire oublier tout le reste. Alors la déforestation n'a pas attendu les incendies de l'été dernier pour détruire le monde d'avant. Pour y chercher du bois, de l'or, des pierres précieuses, ou de la terre pour planter des barbelés, des vaches et du soja OGM. Alors après 4 heures de route au sud de la réserve Uruwewawa, où nous étions hier, la terre indigène du 7 septembre porte un drôle de nom qui correspond à la date du premier contact avec ses habitants, les Surui, en 1969. Ici, ils ont, comme leurs voisins, frôlé l'extinction avec l'arrivée du monde développé, les Surui, plutôt que de se replier, ont choisi de prendre les devants en jouant les règles du marché global. D'un côté, leur leader Almir Narayamoga court les conférences internationales et les chancelleries pour plaider leur cause en répétant qu'un usage raisonné de l'Amazonie est plus viable que sa destruction. Et de l'autre, les Surui replantent leurs forêts avec les moyens des Blancs. Programme de reforestation, mise en place d'un marché de crédit carbone et même partenariat avec Google pour géolocaliser les zones déforestées. Alors trop beau pour être vrai ? Les grands GAFAM qui viennent au secours des petits indiens. Mais les Surui ne sont pas dupes des envies de greenwashing des multinationales. C'est juste la stratégie qu'ils ont choisie pour survivre en replantant leurs forêts. Alors, jusqu'à 18h sur France Inter, je reviens du monde d'avant en Amazonie. Les Surui sortent de leur réserve. I try to run, I grow weary. Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me higher.
trying to find you. Lost my way. Walked in the darkness in search of day.
Face à la déforestation de l'Amazonie, les souris sortent de leur réserve. Pour entrer en terre indigène, il faut trouver son chemin, le long d'une piste accidentée, traverser des pâturages immenses.
On est en train de rouler de nuit sur les routes. Et qu'est-ce qu'on voit dans la nuit qui ressort encore une fois ? Une parcelle qui brûle, qui ressort de l'obscurité complète où on est dans cette petite route de campagne. Mais ce qui est encore plus inquiétant que cet incendie, c'est le nombre de camions qu'on voit venir depuis la zone où se trouve la réserve, normalement préservée des Indiens Suruí. C'est des camions chargés à ras-bord de grumes, de troncs d'arbres.
Yeah, the first two trucks, 90% of chances that they were illegal.
Les deux premiers camions qu'on a croisés, là, c'était 90% de chance parce qu'on les voyait chargés à ras-bord.
But the last one, the third one, is 100% sure.
Mais par contre, le troisième camion qu'on vient de voir passer, là, lui, c'est sûr à 100% que c'était de bois de contrebande. Déjà, c'était un vieux camion avec plus qu'un seul phare. Et surtout, il n'y avait aucun signe, aucune signalétique qui est normalement obligatoire pour le transport de bois ici au Brésil.
Yeah, they travel during the night because there's less police around. It's easier for them because there's nobody watching.
C'est pour ça qu'ils transportent le bois la nuit, parce qu'il y a pas de police et du coup ils peuvent faire ça sans surveillance. Et là, on tourne à gauche, on quitte la route principale et on s'enfonce un peu plus en avant sur des petites pistes. De nuit, vont nous amener enfin à la forêt et enfin à la réserve des Indiens Suruí.
C'est un territoire unique. Une tribu indigène qui, tel un village gaulois, résiste à la déforestation.
Si on a forêt, indien non tem.
S'il n'y a plus de forêt, il n'y a plus d'indiens.
Ces terres appartiennent aux Indiens Suru.
C'est la nuit noire maintenant et on arrive dans le village. Et on a réveillé les chiens.
Ce peuple d'Indiens d'Amazonie revendique ses terres ancestrales, aujourd'hui menacées par des agriculteurs.
La pluie a fini de tomber, donc la terre rouge est devenue toute boueuse. Et c'est encore le début de la matinée. Donc une partie des gens sont au champ, là les enfants sont à l'école, on entend la musique au loin. C'est très paisible. Si on est venu ici, c'est parce que les Amérindiens Suruí, qui sont les garants en fait de la préservation de ce qui reste de forêt dans cette région tout à l'ouest du Brésil, ont décidé de pas se laisser faire. Mais d'une autre manière qu'en prenant juste les arcs et les flèches, c'est en utilisant tous les moyens politiques, juridiques,
mais aussi écologique, économique et technologique. C'est ça qu'on va se faire expliquer. Alors, on s'installe sous un manguier.
Pas bon, Mélan.
23 ans. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je vais faire la tinte, né? Pour peindre le pessoal qui va venir.
C'est en train de râper sur une espèce de planche avec une boîte de conserve sur laquelle on a fait des trous. Il est en train de râper l'écorce de ce génie papo pour faire des peintures corporelles. Il y a combien de gens qui vivent ici, dans le village?
Ici, je pense que ce sont 16 familles.
16 familles avec à peu près 96 personnes. C'est la clairière du village, mais tout autour de nous, c'est de la vraie forêt primaire.
Si, ici, on préserve beaucoup la forêt, comme on précise.
Ici, on protège la forêt parce qu'on en a besoin.
Eu acho que já os colonos, que já não são os indígenas...
Parce que ceux qu'on appelle les colons,
pensam mais financeiramente,
ceux, né, qui viennent s'installer ici, qui ne sont pas des indigènes, eux, ils veulent juste penser économiquement. Ils veulent déboiser, défricher, pour avoir de l'argent vite.
Et ici, dans notre aldeia, já, quand on desmata, on récupère l'aire qui a été desmatada.
C'est pour ça qu'ici, on a tout un programme de reforestation. Et quand les gens viennent couper des arbres illégalement ou défrichent des parties de notre forêt, ben, on la replante pour qu'elle repousse.
Pour les Indiens Surui, il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, mais d'avoir un réel projet de vie, montrer au monde entier que l'on peut vivre de la forêt sans la saccager.
Là, il a presque fini de râper.
Depois de raspar, vai cozinhar ela, né? E espremer, aí sai o líquido.
On va le cuire et après on va presser pour en sortir le jus.
E aí vai estar pronta a tinta, né?
Et après, ce sera prêt pour faire des peintures corporelles. Et là, je vois sur des bras, il y a des petits points en ligne, comme ça, des rangées de 1, 2, 3, 4, 5 points, et des longs traits qui sont verticaux.
A gente fala que essa pintura é a criação do mundo.
Ah, ça représente la création du monde pour nous. Ah oui, et là-bas, il y a le chef du village qui est avec sa machette et qui est en train de préparer des petites tiges de bois qui vont servir à faire les peintures.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant.
Mopiri. Comment vous êtes devenu chef?
Meu vovô é cacique, pai dele também, cacique também.
C'est une famille de chefs, de caciques, comme on dit. Mon père l'était, mon grand-père l'était, et quand j'étais enfant, ils ont choisi que je serais le prochain.
Leader do povo surui.
C'était une chance ou c'était une responsabilité lourde?
Muita responsabilidade.
Beaucoup de responsabilité.
Cuidar no nosso floresta aqui.
Et nous, on est là pour protéger notre forêt.
Dependendo floresta, nós temos vivo. Tem comida dentro.
On dépend de la forêt, on en vit, nos vêtements, notre nourriture, tout vient de cette forêt.
S'il n'y
a plus de forêt, il n'y a plus d'Indiens. Et là, pendant ce temps-là, le chef continue à tailler son petit patule en bois. Et maintenant, ça ressemble à un peigne, en fait, avec des dents. Et c'est ça qui va permettre de faire ces petits traits, ces petits points noirs, 5 par 5. Quel âge vous avez, sans indiscrétion? 59 ans. Ça veut dire que vous êtes né avant le contact de la tribu Surui. Vous êtes né dans un monde qui était à l'époque un monde clos, sans le monde extérieur. Mm-hmm. Et vous vous souvenez comment une grande partie des vôtres, de vos familles, sont morts au moment du contact avec la civilisation des Blancs?
Morreu muito. Eu lembro. Eu era mais ou menos de 8 anos.
Moi, je me souviens très bien, j'avais à peu près 8 ans à l'époque.
Là, pour dire 10, 15, mourir de dia ou à noite.
Il y avait 10 à 15 personnes qui mouraient chaque jour, chaque nuit.
Até eu quase morrer. Tô muito emagrecendo.
Moi, j'étais très malade, j'ai failli mourir.
Mais, aí eu lembro esse.
Vous êtes tous des survivants, en fait.
É.
La tribu a été découverte il y a 50 ans seulement. Cette photo montre une des premières rencontres avec l'homme blanc.
Lors du premier contact en 1969, ils étaient 5000 et plus que 250 trois ans plus tard, décimés par les maladies.
En fait, ces hommes venaient pour le bois et très vite, ils ont coupé des arbres.
C'est quoi la principale menace aujourd'hui sur les Surui?
Mandereiro.
C'est les coupeurs de bois, les bûcherons.
Mandereiro, garimpeiro.
Les chasseurs d'or.
Façando, pescado.
Les pêcheurs, les chasseurs.
Serrador de madeira dentro área indígena.
C'est ceux qui viennent prendre aussi les bois des territoires indigènes.
Mm-hmm. Assim que onde tem invasão lá eu chego lá tem direito eu.
Quand il y a des invasions, des tentatives d'intrusion, j'y vais en tant que chef et je leur dis de partir à tous ces blancs. Et des fois ça vire au conflit. Ils ont des armes.
Ils ont. De novo eu chego lá. Mandar embora, voltar de novo.
C'est comme ça qu'ils menacent. Ils m'ont menacé de mort, mais chaque fois j'ai réussi à les repousser.
J'ai peur qu'ils vont me tuer comigo.
J'ai un peu peur qu'ils me tuent parfois.
Et
après, quand j'ai à un moment été le chef de tous les Surui, j'ai dû prendre des mesures pour empêcher les bûcherons de venir illégalement déboiser nos terres. Les madereros.
Igreja.
Et aussi les églises qui venaient évangéliser nos populations. Et ça apportait trop de mauvaises choses, et donc j'ai dû les chasser, leur interdire de venir. Vous mettez sur un même niveau les églises et les bûcherons clandestins.
Ouais,
ça me manque. Je pense souvent à notre ancienne religion et à celle qui nous a été transmise par nos ancêtres et par nos pères. Et ça me manque parce qu'aujourd'hui, je vois la vie est très difficile ici pour les Indiens. Mais je veux que cette forêt survive et je veux que notre peuple survive.
Je vais construire, apprendre pour mon fils.
On a commencé à monter une université ici pour continuer à vivre avec la forêt, que mes enfants et que mon fils continuent à travailler et à voir des commerces ici pour que tous les proches, toute la famille, les cousins, les neveux n'aient pas à partir à l'extérieur pour vivre, qu'ils puissent trouver leur subsistance ici et rester ici et donc pas perdre leur identité.
Non, je ne veux pas perdre la culture de solidarité de Solouïna.
Oui, on vous laisse terminer le truc parce que vous avez du boulot pour faire les espèces de petits pinceaux, pochoirs qui vont servir à faire les peintures corporelles. Bon, et chef, qui vous me conseillez d'aller voir maintenant dans le village? Là, on va rester un petit moment avec vous, avec les Surui. Qui je devrais aller voir, avec qui parler?
Agamemnon, meu irmão, meu segundo meu.
Agamemnon? C'est votre frère, c'est votre second. Agamemnon, c'est incroyable ça, c'est comme nom de chef.
Chef, também.
Tá bom, obrigado, até logo.
Yeteite.
Yeteite, ça c'est merci. Yeteite, j'ai appris un mot en Surui. Yeteite. Alors vous le voyez, on a procédé en bonne et due forme, on a respecté le protocole de la réserve. Une fois que le chef nous a reçus et jaugés, on a son accord pour passer quelques jours dans ce village de La Petania avec les Surui, loin, très loin dans la forêt amazonienne. Comment faire quand le monde d'avant a disparu et avec lui tout horizon clair pour un monde d'après? Et même si les Surui ont, comme on va le voir, relevé le défi d'une manière qui force le respect, avec une planification pour 50 ans et tout un tas d'expériences ambitieuses, ils ne cachent pas pour autant leurs cicatrices. Comme avec le chef Mopiri, qui, avec les années venant, évoque après le soir ses rêves de reconstruire une maloka, ces grandes maisons en bois collectives où vivaient une quinzaine de familles dans le temps avant que chacun ait sa petite cabane en bois ou en parpaing. Mais avant de revenir sur ces questions de mémoire et d'identité qui chiffonnent donc aussi les Surui, on suit les conseils du chef Mopiri et on va retrouver le sous-chef Agamemnon, qui lui est au champ. Enfin, c'est pas vraiment un champ, mais pas vraiment une forêt non plus. Plutôt les deux à la fois. Avec les Surui, reforestation et agroforesterie.
Mopiri et Agamemnon sont frères. Ils portent la coiffe des chefs.
Les sorouis sortent de leur réserve.
Alors, nous voici dans les champs des sorouis. Et si je regarde autour de moi, je vois des tonnes de végétation de toutes sortes. Oui, bon dia. C'est bon. Ah, là, il y a Agamemnon qui est en train de cueillir les cacaos et son épouse, elle est en train de les ouvrir un coup de machette et les évider dans un sac pour sortir juste la pulpe et les graines. Voilà, et on voit à l'intérieur les fèves de cacao. On le met dans la bouche pour manger juste la pulpe qu'il y a autour des graines. C'est bon. Petit goût de litchi, presque. Hein.
Meu nome é Agamemnon.
Je m'appelle Agamemnon.
Eu sou morador de aldeia La Petagne.
J'habite dans le village La Petagne.
Eu sou chef do florestamento.
Je suis aussi le chef responsable de la reforestation et c'est pour ça que vous me montrez tous les arbres derrière là qui ont été plantés.
Eu tenho cacao aqui.
Il y a le cacao qui est là, les bananes à côté.
Eu plantei de inga, tem bastante aí, né?
Il y a aussi des inga, c'est cette espèce de longue courge qui ressemble à une énorme gousse de vanille. Juste à côté, il y a un autre petit arbre avec des feuilles toutes gufteuses, toutes soyeuses.
Cacheta.
Cacheta. Et mais alors dites-moi, Agamemnon, j'adore votre nom, excusez-moi au passage, hein, ça c'est le nom que vous ont donné venu des livres occidentaux. Vous utilisez quoi comme pesticide, comme engrais?
Comment?
Il ne comprend pas ma question.
Não está muito rosado. Rosado, veneno, não.
Ouais, on n'utilise pas de poison. Ici, c'est le terme qu'on utilise. On dit veneno. Donc, toutes vos cultures, là, ici, c'est biologique.
Puro, assim, não precisa para rosar, não. Veneno, não.
Ouais, et on voit ici, la terre même, il n'y a pas besoin de mettre du poison là-dessus. Tout est naturel.
Quand la folha cai, depois, au tempo de chuva.
Quand on laisse les feuilles au sol, et quand il pleut dessus, bah, ça commence à se décomposer, et puis ça fait de l'humus. Et ça nourrit la terre.
La terre est voilà. Différente, pour cause de ces feuilles, né?
Et grâce à ça, là, il gratte la terre à même la main, et on voit que ça sent vraiment le sous-bois, quoi. Et alors, est-ce que c'est planté n'importe comment, là? Moi, j'ai l'impression d'être dans une espèce de fouillis de végétation, mais chaque chose a une place particulière, et les plantes cèdent les unes les autres.
Também que eu plantei no Mandera de...
Et j'ai aussi planté des arbres de Mogano parce que c'est des arbres que les bûcherons veulent parce que ça a beaucoup de valeur. Mais vous ne l'avez pas planté pour le couper. Vous l'avez planté pour le garder. Ah, et ça, c'est aussi des noix du Pará. Et voilà, vous avez déjà planté aujourd'hui ces arbres qui, là, pour l'instant, il fait quoi? Il fait 3 mètres de haut. Mais quand ils sont adultes, quand ils ont plusieurs décennies, c'est des arbres qui montent à 40 mètres de haut. Et vous l'avez planté, ces noyers du Pará, qui est un arbre très protégé. Vous les avez replantés sur des zones qui ont été déforestées. Et quand il va continuer à grandir, vous allez aller un peu plus loin. Et cet arbre-ci, au milieu de votre champ, ben il va prendre la place du champ. Et c'est ça, l'agroforesterie.
Oui.
50 000 arbres sont replantés chaque année. Dans la tribu, certains des plus jeunes ont étudié l'agronomie. Les sorouis sont fiers de montrer les plants d'arbres exotiques.
Eu quero morar uma casinha feita à mão, uma floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. E vou plantar abacaxi com banana, mandioca, cacau, batata doce, feijão, palmito e um café bem bonito. Pela na sombra da goiaba e do mamão, sob a copa do coqueiro, açaí, abacateiro, cajueiro, maracujá. Vista pro mar. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pés no chão. Eu quero morar numa casinha feita
France Inter, je reviens du monde d'avant.
Oui, bon dia.
Bonjour.
Bon.
Quand des Amérindiens replantent contre l'agro-business.
Ça, c'est toute une partie de la forêt qui a été reforestée. Alors nous, on est dans les champs. Enfin, on est là où il y a les cultures. Là, on est en train de ramasser, de mettre dans des casiers des bananes légumes.
Ouais, c'est bananes frites.
Ouais, c'est des bananes qu'on fait frire. On est en train de les charger dans un camion. Et les skins
Comprador de mes bananes.
Ah, et ça, c'est des gars qui viennent les acheter, les bananes.
Oui, bon dia.
Mon nom est Magno Heller.
Magno Heller.
Magno Heller, agriculteur.
Agriculteur.
Je suis d'Italie, à uns 26 km de là.
Vous venez de 25 km d'ici.
Je produis des bananes là. Mais je compte d'eux aussi, parce que, igual, il y a une rede de mercado là où nous entregons.
Moi, je produis des bananes, mais simplement, je n'ai pas cette variété de bananes. Et donc, je les lui achète pour pouvoir aller les distribuer au marché.
Agora tem que ser que ela fica de boa qualidade. Agora tem que ser com ruim que ela fica.
Regarde, alors, c'est de la très bonne qualité, tu vois.
A produção de banana deles aqui, em vista do que eu produzo lá, deles é muito melhor.
Les bananes que les souris produisent ici, elles sont bien meilleures que la qualité que les vôtres.
C'est la terre qui est mais forte, qui est naturelle, também, não tem veneno, não tem nada.
Ah, et c'est la terre aussi qui est meilleure, la culture qui est faite sur le principe traditionnel, sans pesticides.
Também. Meu interesse é comprar deles. Eles plantam e eu compro deles.
Et donc, du coup, moi, j'achète les siennes. Vous utilisez des pesticides, des engrais?
É, no chão, usa, lá usa muito.
Beaucoup, dans le champ.
É, muito. Sem agrotóxico, porque aquele trem lá.
Parce que c'est bien meilleur la culture sans agrotoxique, comme on dit ici, c'est-à-dire sans pesticides. Et alors, est-ce que vous allez vous inspirer de leurs techniques de culture à eux, qui sont plus respectueuses de l'environnement, pour vos cultures à vous?
Aqui, devido a ces... Tem muita mata de roda, a questão de doença, de outras coisas, é muito inferior. Lá não, já não teria nem como eu fazer.
Não, mas é pas possible, en fait, parce que eux, la terre ici est bien, elle est protégée par la forêt, on est au milieu de la forêt. Alors que moi, dans ma zone, moi, j'utilise beaucoup de pesticides et d'engrais, et je peux pas arrêter d'utiliser du jour au lendemain.
Se eu falar, a banana deles aqui é 10 vezes melhor do que a que eu produzo lá.
Donc, il n'y a rien à faire, quoi. Eux, leur variété de bananes sont 10 fois meilleures que les nôtres. Et là, on voit la femme du chef qui arrive avec un grand sac et sa machette à la main. Il revient le long du chemin.
Eu não vou desistir disso não. Tem que mesmo assim que eu vou lutar.
Je vais pas abandonner. Je vais toujours me battre pour la forêt.
Por exemplo, de peixe tem costume de água, de ele ficar seco assim, não mais viver.
C'est comme un poisson. Si la rivière s'assèche, bah, il ne pourra plus vivre. Ouais, vous êtes comme un poisson dans l'eau, dans la forêt. Et pendant ce temps-là, il y a un couple de perroquets qui passent au-dessus de notre tête en chantant. Oula, Agamemnon, on l'a laissé 2 minutes d'avance et il s'est enfoncé dans la forêt. Enfin, ça ressemble à une forêt, mais ça n'est pas en fait. C'est un champ d'agroforesterie. C'est-à-dire que je passe à travers des bananiers. Là, je vois un cacaoyer. Là, je vois des fruits que je connais pas.
Les Indiens trouvent ici quelques-uns de leurs remèdes. Cette écorce contre le mal de tête. Cette branche pour anesthésier le mal de dents. Ou ces feuilles pour dégager les bronches.
Caben.
Caben. Et Caben, c'est une dame très très jolie, avec une jolie frange de ses cheveux noirs de jais, avec un joli tatouage qui part de l'oreille gauche jusqu'à l'oreille droite, en passant sous le nez, sur la lèvre supérieure. Et c'est d'autant plus joli que, avec sa robe noire, elle a sur les bras et sur les jambes une myriade de petits points noirs dont on a compris maintenant que c'était pas des tatouages, c'était des peintures corporelles. Et pendant que je parle, elle sourit parce qu'elle trouve ça rigolo de me voir parler tout seul dans mon microphone. Et elle regarde loin devant sans surtout me croiser les yeux. Kanatenga. Ça veut dire bon après-midi. Kabena. On m'a dit de venir vous voir parce que vous êtes celle qui connaissait les plantes médicinales ici dans la forêt. qu'est-ce que vous pouvez soigner, par exemple? C'est quoi les genres de maladies pour lesquelles on vient vous consulter?
C'est
pas mal, ça. C'est l'histoire des docteurs sans frontières. C'est comme Médecins sans frontières, mais c'est les autres qui viennent ici dans les villages, dans les zones amérindiennes, ici en Amazonie, et qui, lui, s'était blessé à la jambe. Et au bout de quelques jours de traitement d'antibiotiques, ça se soignait toujours pas, ça se surinfectait. Et on est venu vous voir pour vous demander de soigner. Vous êtes allé chercher des plantes dans la forêt, et après 3 jours de traitement, il était complètement guéri. Et ce qu'on m'a dit, c'est que cette connaissance que vous avez des Surui, ça intéresse beaucoup, beaucoup de gens à l'étranger et qu'il y a eu pas mal de propositions qui vous ont été faites à la communauté de transmettre votre savoir à des laboratoires privés.
Bon, yeah, pas mal de
Il y a beaucoup de blancs qui viennent vous demander de faire des médicaments et des remèdes contre le diabète. Est-ce que vous préférez, vous, c'est plutôt enseigner aux jeunes du village et de la communauté vos connaissances médicinales plutôt que vendre ses savoir-faire? L'argent, ce n'est pas une valeur qui compte pour vous. Et l'avantage avec la médecine traditionnelle, c'est que non seulement elle est souvent plus efficace et plus rapide, avec moins d'effets secondaires, mais surtout, elle ne coûte rien. Et comme ça, on n'a pas à avoir d'argent pour le dépenser. Il y a des singes qui passent à côté, là, pendant ce temps-là, qu'on est en train de parler. Et est-ce qu'il y a un rituel quand on cueille les feuilles et quand on ramasse les racines et les graines? Est-ce qu'il y a des chansons ou des prières qu'on fait pour remercier ou pour que tout se passe bien? Il y a beaucoup de ces herbes qui sont utilisées dans des rituels sacrés. Et c'est quelque chose qui est en train de se finir, de se perdre. Avec le contact avec les Blancs, il y a eu des conséquences. Par exemple, nous, on n'a plus de pagé, on n'a plus de chaman, qui était, lui, normalement, le dépositaire de tous ces rituels. Parce que, justement, il y a eu l'arrivée des églises et l'évangélisation.
Je reviens du monde d'avant sur France Inter.
Perpela nous chante une chanson traditionnelle des Surui et c'est mignon, on dirait une berceuse. Simplement, je me suis fait expliquer les paroles. Et les paroles, c'est « Je vais te tuer, je vais manger ton foie avec du maïs grillé, je vais aussi manger ta viande toute crue, et je vais te manger par morceaux de viande crue. » Mais c'était que les ennemis qu'on mangeait, les rituels anthropophages chez les Surui. Mais vous n'avez pas mangé des blancs? Les blancs, ils sont pleins de maladies, on ne les mange pas. Je suis rassuré, là. Non, vous ne voulez pas manger des blancs. Écoutez, c'est une très bonne chose. Vous êtes le chaman de la tribu Surui. Donc, vous connaissez toutes les histoires du peuple Surui, de leur place dans le monde et de ce qui leur arrive. Oui, c'est ça. Ça fait quoi un chaman, un pajé? C'est pour soigner les gens. Converser avec les esprits. Et avec quels esprits, par exemple, vous conversiez? Il y a beaucoup d'esprits dans la nature. Il y a celui de la rivière, il y a celui de la forêt. Et au moment où il échange avec les esprits, c'est eux qui prescrivent, en fait, qui disent comment se comporter, comment faire pour soigner les gens. Et est-ce qu'ils vous parlent encore, les esprits, aujourd'hui?
Non.
Non, ils sont tous morts maintenant. Depuis que vous êtes converti, il n'y a plus d'esprit. Vous vous souvenez que la fois où le prêtre a commencé à crier dans l'église, une fois que vous étiez converti, ils ont tous fui. Mais ils se sont repliés dans la forêt, ils vous ont laissé, depuis que vous vous êtes converti à la foi évangélique. Est-ce que ça vous manque de ne pas les entendre, parfois?
Non.
Vous ne voulez pas?
Oui, et puis ils tournent bon, non.
Ils sont plus bons, les esprits, maintenant. Mais ils existent encore.
Ah oui,
vous savez pas. Vous savez pas ce qu'ils sont devenus, parce que maintenant que vous êtes convertis, vous ne les entendez plus. Est-ce que le feu a un esprit? Parce que cet été, il y a eu beaucoup d'incendies, il y a eu beaucoup de feu, beaucoup de fumée. Est-ce qu'il y a un esprit du feu aussi?
Mukanti.
Mukanti, il s'appelait l'esprit du feu.
Mukanti.
Et c'était un bon esprit ou c'était un esprit mauvais?
Era bon, aquela. Era bon. Depois, muito mal.
Il était bon au début et puis après, il est devenu très mauvais. C'est ça, c'est qu'à l'époque, l'esprit du feu était bon, parce que quand on faisait des quemadas, c'est-à-dire des brûlis, le feu était contrôlé, le feu ne s'éparpillait pas, le feu ne s'étendait pas au reste de la forêt. Mais maintenant, comme vous ne parlez plus aux esprits depuis que vous êtes converti et que vous savez plus ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, vous vous demandez s'il ne serait pas devenu mauvais, l'esprit du feu. Et là, on voit le chaman, le pagé, qui est là avec ses tatouages. Il y a un tatouage qui parle d'un lobe qui passe tout droit jusqu'à l'autre lobe en passant sous la narine, juste sur la lèvre supérieure. Et il y a un autre qui part du menton et qui remonte à gauche et à droite jusqu'au temple. C'est des histoires de Dieu. Ouais. Moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, hein. Les chansons chamaniques anthropophages et les cantiques évangéliques quand elles sont chantées par un ex-chaman rangé des voitures.
Sur France Inter, je reviens du monde d'avant. Le pari des sourouilles pour sauver leur forêt.
Je suis Almir Souroui. J'ai 45 ans. Je suis activiste environnemental. Et aussi leader indigène. J'en ai marre de parler de moi.
Bonjour, Almir Narayamoga Souroui.
Almir Narayamoga Souroui.
Merci d'être avec nous.
Almir Narayamoga Souroui est le chef des Païters Souroui.
Il est l'un des activistes autochtones les plus connus et respectés.
Il parcourt le monde pour alerter l'opinion publique et faire passer son message.
La première question que je voulais vous demander, vous le chef indien, dont la tête est mise à prix par ceux qui déforestent votre pays, votre peuple menacé, quel message vous voulez faire passer aujourd'hui?
Almir Souroui, je suis très content de vous rencontrer en ville. On a quitté le village de la réserve Souroui parce que vous êtes tout le temps en train de courir dans tous les sens. Vous êtes par Mons et par Vaud. D'ailleurs, j'ai même une brochure où je vois en photo avec Bill Clinton, Prince Charles, aux conférences Tech Awards pour l'environnement. Et un peu partout dans le monde, vous êtes tout le temps par Mons et par Vaud parce que vous êtes le représentant du peuple Souroui. Et vous, dans la presse brésilienne, vous êtes présenté comme l'Indien high-tech. Pour préserver votre environnement, que ça soit avec le marché de compensation carbone ou que ça soit avec Google aussi.
Oui,
j'ai été jusque chez Google. C'était en 2007. Et je leur ai posé la question. Toutes ces grandes villes du monde comme Rio, New York, Londres ou Paris, on peut trouver toutes les informations les concernant sur les cartes Google. Et par contre, si on regardait sur nos terres indigènes, aucune information sur Google. Alors je leur ai demandé pourquoi. Ce que je leur ai dit, c'est... Moi, j'ai des informations, mais je n'ai pas la technologie pour pouvoir communiquer avec le reste du monde sur la place de la forêt.
Vous êtes celui qui avait voulu déplacer le champ de bataille, quitter la forêt et le combat au corps à corps, comme le font les Uruwawa contre ceux qui veulent accaparer les terres, et vous déplacer le champ de bataille à l'échelle globale.
Pour cela, il a même monté des partenariats avec des géants comme Google.
Many people are familiar with Google Earth.
Tout le monde connaît Google Earth.
The Surui tribe is also using Google Earth.
Et les Surui, grâce à la formation que nous leur avons fournie en 2008, ont appris à mettre toute leur connaissance de la forêt sur Google Earth et partager leur culture avec le monde.
Aujourd'hui, 50 ans après le premier contact de notre peuple avec le monde extérieur, il reste à peu près 1500 Surui dans 27 villages et une forêt de 250 000 hectares. Nous avons établi un plan stratégique pour les 50 prochaines années du peuple Surui. On a élaboré et on met en œuvre encore aujourd'hui chacune des étapes. C'est comme ça que notre projet carbone est devenu un des premiers projets carbone et le seul porté par un peuple indigène.
Ce qui fait que vous touchez de l'argent pour la communauté de la part d'entreprises qui émettent du carbone pour vous protéger cette forêt qui capte et qui retient le carbone.
Então, essa compreensão, o papel da
c'est comprendre le rôle de la forêt,
de maneira de
pour prendre conscience qu'il y a d'autres manières de se développer, qui sont économiquement durables et qui respectent l'environnement.
Pour pas que ça soit une manière trop facile de faire ce qu'on appelle du greenwashing.
Exatamente. É por isso que
nós tínhamos criado nossos critérios formulé nos exigences avant même de rencontrer ces multinationales.
Então, que não
comme ça, celles qui ne veulent pas suivre ces règles peuvent partir tout de suite.
Okay, por exemple,
par exemple,
quem fabrica arma,
les entreprises qui fabriquent et vendent des armes
comprar,
ne peuvent pas acheter les crédits carbone du peuple Surui.
Quem faz o impacto
ou les entreprises qui provoquent des dégâts environnementaux, ou que ce soit en Amazonie,
nunca ia comprar
n'ont pas le droit non plus d'acheter nos crédit carbone.
Então a gente tem que saber e levar e acreditar no que nós somos capazes.
Et donc le monde doit comprendre que nous sommes capables, nous Surui,
de construir o próprio nosso destino.
De construire notre propre destin.
E dessa forma a gente tem buscado de que nossos jovens vão à faculdade.
Et c'est pour ça qu'on a voulu que nos jeunes aillent à l'université,
buscar conhecimento,
pour apprendre le savoir,
e também valorizar sua cultura,
et aussi valoriser leur propre culture.
E por isso nós estamos criando uma universidade indígena aqui na
nous sommes donc en train de créer une université indigène ici dans la réserve du 7
septembre. Que é a Universidade Paiteira Rui Chavé, o saber do povo Paité.
C'est l'université du savoir du peuple Paiter Surui.
Onde nós queremos compartilhar essa sabedoria.
Et c'est là où on veut partager toutes ces connaissances.
Seja cultural, tecnológico,
qu'elle soit culturelle, technologique ou même spirituelle.
Ça, alors que beaucoup d'ethnies ont vu la confrontation avec le monde occidental, le monde de la consommation, le monde moderne comme une acculturation, comme un abandon, vous vous essayez de faire coexister les deux.
Exatamente.
Exactement.
Nossa missão,
notre mission
é demonstrar que nós somos capazes de fazer o mundo diferente.
C'est démontrer à tous que nous sommes capables de faire un monde différent.
This is the first project really where the Indians themselves
c'est le premier projet où ce sont les Indiens eux-mêmes qui mesurent le carbone grâce à ces outils. Et donc la technologie leur permet de surveiller le carbone.
Ubirata Namalotaba Surui.
Ubirata
Namalotaba Surui.
Namalotaba Surui.
Le povo indígena Paité Surui.
Je fais partie du peuple indigène Paité Surui.
Eu também sou estudante, faço curso de ciências humanas e sociais.
Et j'étudie en faisant des études de sciences humaines et de sciences sociales. Parce que souvent, vous autres, Amérindiens, vous avez été étudiés, vous avez été des objets d'étude. Mais simplement, maintenant, c'est votre tour à vous de faire le discours et d'être plus simplement des objets, mais des sujets.
Sim, é por isso que o nosso objetivo é mesmo é poder cursar, entrar na universidade.
C'est pour ça que nous, notre objectif de ma génération, c'est de pouvoir aller à l'université, de faire des études.
Poder construir a nossa própria história. Né?
Pour écrire nous-mêmes notre propre histoire. Et c'est ce que vous avez commencé à faire depuis plus de 10 ans, vous les Surui, puisque vous êtes en pointe sur énormément de dossiers qui ont trait à l'environnement, à la défense des droits autochtones.
Tem alguns projetos, né, que quando eu comecei a participar também foi o reflorestamento, né, que eu participei desde o início.
On a plusieurs projets comme ça, on a un projet de reforestation, on a aussi avec Google développé une application pour pouvoir marquer les incendies et les zones qui sont attaquées, et puis aussi le principe de RED+, c'est-à-dire la compensation carbone avec le marché carbone.
Que nem os mais velhos, assim, eu falo com meu pai e meu avô quando era vivo, minha avó.
C'est ce que disait votre père, votre grand-père, avant qu'il ne meure, c'est que la discussion que vous aviez, c'était savoir qu'il fallait s'adapter d'une manière ou d'une autre à la culture des Blancs.
Para que a nossa cultura não seja extinta, né?
Pour pouvoir préserver notre culture et qu'elle ne s'éteigne pas.
Que nem, por exemplo, a gente estava em uma oficina organizada sobre o RED+, né, que é o... Do carbone,
par exemple, on a un bureau où on a développé le marché de compensation carbone qui avait été décidé au sommet mondial sur le climat.
On appelle ça la compensation carbone. Planter des arbres pour contrebalancer des émissions de CO2. Des compagnies aériennes ou pétrolières proposent ce système à leurs clients en échange de la pollution provoquée par leurs activités.
Alors expliquez-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites sur le marché de compensation carbone et comment ça marche et comment... Alors que la nuit est tombée et qu'on est dans des hamacs sous la paillote, vous allez m'expliquer le marché de compensation carbone du monde capitaliste.
Le principal accusé, c'est le dioxyde de carbone, le CO2. Quasiment chaque activité humaine provoque l'émission de ce gaz à effet de serre. Conduire une voiture, bien sûr, fabriquer des vêtements et même une recherche sur Internet dégage environ 0,2 g de CO2 dans l'atmosphère.
Nós tínhamos feito o plano de gestão do nosso território, né?
On a fait donc un plan de gestion de notre territoire, cet accord RED+.
Fizemos o etnomapeamento, colocando as áreas onde os Paité podiam fazer suas florestas.
Et donc on a divisé, on a fait toute une cartographie de notre territoire avec les zones où on pouvait chasser, les zones où on pouvait pêcher, les zones où on pouvait installer des villages.
Dividindo essas áreas.
Tout ça en fonction de la végétation qui s'y trouvait. Vous vous engagez pour une cinquantaine d'années à ne pas détruire toute cette partie de la forêt qui est sous votre responsabilité dans votre réserve, ce qui représente une quantité de carbone stockée dans la forêt, que vous pouvez échanger contre de l'argent à des sociétés, à des grands groupes multinationaux, pour compenser le carbone que eux libèrent dans l'atmosphère. C'est-à-dire, vous gardez la forêt et ça vous rapporte de l'argent plutôt que de la détruire.
Sim, porque queremos preservar a nossa floresta para ter a qualidade de vida, não é?
C'est pas pour gagner de l'argent qu'on veut préserver notre forêt et notre environnement, c'est pour maintenir notre qualité de vie.
E isso é porque da nossa cultura, da nossa vivência mesmo.
C'est pour maintenir notre culture et notre mode de vie.
Porque, como você vê no mapa, os territórios indígenas são as únicas áreas que têm floresta, né?
Ouais, c'est vrai que quand on voit les cartes routières ici dans l'état du Rondônia, les seules zones où il reste des forêts intactes, c'est dans les réserves des peuples indigènes et en particulier celle de la Vôtre de Surui.
Então a gente fica imaginando aonde que a, como que a humanidade, onde que está o pensamento dessa humanidade.
Et c'est vraiment là où on se demande qu'est-ce qui arrive à l'humanité pour détruire tout comme ça.
Nascemos e com certeza vamos morrer defendendo as nossas florestas.
Parce que nous, on est nés dans cette forêt et qu'on le veuille ou non, on mourra dans cette forêt, avec cette forêt.
Iteite.
Ça c'est merci. En tupi monde, la langue de Surui. Iteite.
Iteite.
Non, les Surui ne vont pas disparaître en même temps que leur forêt amazonienne. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, on ne peut être qu'impressionné par leur détermination. Inventer une autre manière de vivre dans le monde d'après, c'est avec ces questions que je quitte le cœur lourd, ces amis du monde d'avant. Et donc, merci encore à Kabena, Ubiratan, Mopiri, Almir, Perpera, Paban et le bien nommé Agamemnon qui nous ont si bien accueillis au village Surui de La Petagna, dans la réserve du 7 septembre, dans l'ouest du Brésil. Un grand merci aussi à Gabriel Uchida, photographe engagé qui nous a accompagnés dans les forêts du Rondônia, à Neidinha, Louise Rollet et Bruno Meyerfeld. Retrouvez les infos, les photos et vidéos sur franceinter.fr, où vous pourrez aussi vous abonner à tous les podcasts en version longue de la série de reportages de l'Islande au Japon, en passant par l'Australie.
changer. Je prends la tangente à l'U qui cercle les bords de mon miroir. Manger devant la télé, j'allume, qu'allumer, y'a qu'allumer. Personne ne me verra changer avant que le vent ne dégage. Odé, odé. Personne ne me verra changer avant que le vent ne dégage nos goûts. Je prends le temps, j'entre halluciné seul sur les bords de ma mémoire. Songer devant la télé, j'allume, qu'allumer ça. J'ai perdu le son, j'annonce un délai 1. J'ai perdu le son, ah non non. Odé, odé. Personne ne me verra changer avant que le vent ne dégage. Odé, odé. Personne ne me verra changer avant que le vent ne dégage nos goûts.
Je reviens du monde d'avant et pas fâché d'être de retour au présent. Un grand merci à Hélène Biziot qui a réalisé cette émission, à Julien Michel qui l'a mixé et Martine Abba qui l'a monté. Et on vous donne rendez-vous samedi et dimanche à 17h pour changer de continent tout en restant dans la même odeur de brûlé. Après les feux d'Amazonie, les bushfires d'Australie, ces méga feux des temps modernes qui ont emporté une partie du pays pendant l'été austral. I'm really bad, yeah.